Donc, aujourd'hui, sur la paracha Vaishlach, on va s'arrêter sur le pasouk Katonti Mikola Chassadim. C'est quand Yaakov va s'apprêter à éventuellement aller en guerre contre son frère Esav, puisqu'il n'a plus le choix. Et il dit, Katonti Mikola Chassadim, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit, je suis petit en vue de tous la bonté que tu m'as fait. En d'autres termes, il se sent petit et il ne sait pas si, comme Rachid va expliquer, il ne sait pas s'il va être sauvé dans cette guerre. Il ne sait pas s'il a assez de mérite pour s'en sortir. Donc le verset, il dit « Katonti mikol achasadim » « Je suis petit mikol achasadim de toutes les bontés ». Ça, c'est le terme que Yaakov dit.
C'est étonnant quand même.
Alors, on va s'arrêter, justement. On va s'arrêter, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de choses. Donc l'ikrat gishato chez Yaakov, imesav achiv. Donc lorsque Yaakov se prépare pour rencontrer son frère, il palel Yaakov à la Kadosh Baruch Hu. Yaakov a prié à Kadosh Baruch Hu, il a dit la chose suivante. Katonti mikol achasadim, je me sens petit par rapport à toutes les chassadim, par rapport à toutes les bontés que tu m'as fait. Ki vemakli avarti et ayerdan azé. Car, avec mon bâton, j'ai traversé ce Jourdain. Donc apparemment, le fait qu'il ait traversé le Jourdain avec son bâton, c'est un chesed. Alors Rachid s'arrête dessus, et donc ça ramène dans le Midrash. À la Midrash, sur le verset, donc Bemakli, qu'est-ce que veut dire Yaakov quand il dit « J'ai traversé le Jourdain avec mon bâton ». On peut comprendre ça de deux manières. Donc le Midrash, « Mevia Midrash Shnei Pirushim », sur ça le Midrash amène deux explications. Pirush Echad, première explication, « Shebeovro et Ayarden, lo yaimo shum rechush » que lorsque Yaakov est passé le Jourdain, il n'avait aucune richesse, Zula Tamakel, sauf le bâton. Donc d'après cette première explication, il faut dire, quand il dit, j'ai traversé le Jourdain avec mon bâton, c'est comme pour dire, je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé le Jourdain. Bon. Et donc c'est pour dire, je remercie Akadosh Baruch Hu que maintenant, il m'a donné beaucoup d'argent. Parce que maintenant, il avait beaucoup d'animaux, il avait tout ce qu'il fallait. Pirush Sheni, le Midrash donne une seconde explication.
C'est à quel moment que...
Donc là, apparemment, s'il a traversé le Jourdain avant d'aller avant d'aller chez Lavan. D'accord.
Quand il a fui, il avait rien.
Il dit, voilà, j'avais mon bâton, c'est tout. Pirush Sheni, seconde explication, le Midrash dit, Nathan Maklo Beyarden, Venifka Yarden. Yaakov a posé son bâton sur le Jourdain, et le Jourdain s'est ouvert. Et il a pu passer. Donc, deux explications pour expliquer ce que Yaakov dit, qu'il a traversé le Jourdain avec son bâton. Première explication qu'il dit, ça veut dire, j'ai traversé le Jourdain, je n'avais que mon bâton en main. Deuxième explication qu'il dit, j'ai traversé le Jourdain grâce à mon bâton. Ça veut dire qu'avec son bâton, il a fait un coup de bâton et puis, il a fait un miracle. Alors, c'est très intéressant. Écoutez bien pourquoi c'est très intéressant, ces deux explications. Puisque, Shnei Apirushim Alalu Menugadim Zelazé Bemautam. Ces deux explications sur le même mot, sur le mot Bemakli, non seulement qu'elles ne sont pas du tout les mêmes, mais elles sont contradictoires. Pourquoi ? Apiru Sharishon Mevateoni. La première explication qui dit, quand Yaakov il dit, quand j'ai traversé le Jourdain, je n'avais que mon bâton. Ça exprime une pauvreté. Il était tellement pauvre qu'il n'avait que son bâton. Imaginez-vous, il n'a rien. Veilu Apiru Sheni, alors que la seconde explication sur le mot bâton, Mevate Gdula Atsuma. Ça va exprimer une grandeur tellement grande, ad que des nes kokabir, jusqu'à qu'on arrivait à un miracle tellement impressionnant, chez le Bekiat et Erden, de fendre le Jourdain avec un bâton. Mais achar shnei apirushin, donc vous voyez comment sur le même mot Bemakli, on a trouvé deux explications qui sont contradictoires. La première explication qui dit que Yaakov a traversé le Jourdain, il avait que son bâton en main, ça exprime une pauvreté. Alors que la seconde explication qui dit que Yaakov Avinu a traversé le Jourdain grâce à son bâton, c'est-à-dire qu'il a utilisé son bâton pour traverser le Jourdain, ça exprime une grandeur tellement grande, à tel point qu'il fait des miracles au quart de tour.
Mais une grandeur matérielle.
Peut-être, d'accord, certes. Alors tu vas me dire grandeur matérielle, grandeur spirituelle, c'est possible, on parle pas de la même chose, on parle pas sur la même chose. Un il parle spirituel, l'autre il parle matériel, c'est vrai. Mais ça change pas que un exprime une grandeur et l'autre exprime une pauvreté. Et alors ? Mais achar shechne apirushim alalu emshel le tamita matora. Puisque ces deux explications sont deux explications sur le même mot dans la Torah. Vadai sheyesh kesher pnimi benehem. Il est sûr qu'il y a un lien profond entre les deux. Ça, c'est un principe que Tosfot nous dit. Tosfot, il explique, d'accord, dans la Gemara, plusieurs fois, que lorsqu'on a plusieurs explications dans la Torah sur un même mot, même si les explications pareilles paraissent contradictoires, divergentes, même contradictoires, il y a certainement un rapport entre ces explications. Par exemple, où il dit ça Tosfot, à propos du chatnez. Le chatnez. À propos du chatnez, la Gemara amène trois explications comment on peut expliquer le mot chatnez. Et ça correspond à trois méthodes de tissage. La Gemara a dit que les trois méthodes de tissage sont interdites, puisqu'on apprend du mot chatnez. Alors, soit tu poses une question, il dit, mais je comprends pas. Tu me dis que le mot chatnez, il a trois explications possibles. Alors, c'est ou la première, ou la deuxième, ou la troisième. Pas les trois en même temps. D'accord? Donc, il doit y avoir une seule méthode de tissage qui doit être interdite. Bon, la Gemara l'explique, je ne vais pas entrer dans les détails. Qu'est-ce qui répond la Tosfot? Il dit que puisque c'est trois explications sur le même mot, ça veut dire que forcément elles ont un rapport entre elles et forcément il y a une manière d'expliquer les trois ensemble. Donc ici, certainement qu'il y a une manière d'expliquer ces deux explications ensemble. Qu'en même temps Yaakov est pauvre matériellement et en même temps grandeur spirituelle. Il faut expliquer comment les deux peuvent cohabiter. Bon. Trila, mais avant d'expliquer ça, allez nous les avin et etsem pardo chez Yaakov ibn Esav. On va arriver à la question de M. Daniel. Avant d'arriver à expliquer donc ce paradoxe qu'on a ici, donc d'un côté une grandeur spirituelle et de l'autre côté une pauvreté matérielle, donc on va expliquer un petit peu comment c'est possible et comment Yaakov gérait ça. On va d'abord essayer d'analyser la raison de la peur de Yaakov. Pourquoi Yaakov a peur d'Esav? Pourquoi il a peur? De quoi il a peur? Allo Akadosh Baruch Hu Gvar Iftiachlo chez Yeimo. Akadosh Baruch Hu a déjà promis à Yaakov, il lui a dit, je serai avec toi. Il lui a promis dans la paracha de la semaine dernière, Veine Anochi Imach. Au début de la paracha, dans son rêve, qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit, je serai avec toi. Imaginez-vous quelqu'un. Quand il lui a dit de partir, il lui a dit, je serai avec toi. D'accord? Non, c'est pas quand il lui a dit de partir chez Lavan, c'est quand il partait, oui, pas de chez Lavan, chez Lavan.
Ah, d'accord.
Il a dit, je serai avec toi, t'inquiète pas.
Dès le départ.
Imaginez-vous, Dieu qui vous donne une assurance. Meilleure assurance, tout risque. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Là-bas, il lui dit même dans le verset, je serai avec toi et je te garderai partout où tu iras. Imaginez-vous, Dieu, il vous parle et vous dit ça. Vous avez peur après de quelque chose? Même si quelqu'un il vous amène un pistolet dedans, vous n'avez pas peur. Dieu, il m'a dit, il va me garder. De quoi? De pourquoi Yaakov, il a peur? C'est une question que la Gemara, elle pose. Et a priori, lorsque Yaakov était équipé de cette bracha, d'avoir peur de personne. Donc rappelez-vous que là, dans notre paracha, Yaakov a peur de la rencontre avec Esav, et il est en train de prier à Kadosh Baruch Hu. Il dit, je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, je me sens petit, j'ai peur que tu ne vas pas me sauver. J'ai dit, maintenant, je t'ai déjà dit que j'allais te sauver.
De quoi t'as peur? Le mérite d'une bracha
voilà. Accordée. Alors c'est ça la réponse de la Gemara. Hein? Comment on peut perdre le mérite? Mais Shivi Malkar, la Gemara répond sur ça. La Gemara Brachot, au tout début de la Gemara Brachot, page 4, elle dit, chez Yaakov, Rachash, que Yaakov a craint. Shema Nitlach Larti Bechet. Yaakov s'est dit, peut-être je me suis sali avec une faute. Certes, Akadosh Baruch Hu, il m'a promis, il y a quelques dizaines d'années, il m'a promis, je serai avec toi partout où tu iras. Mais entre temps, il y a des choses qui sont passées. Entre temps, peut-être qu'il y a une faute. Peut-être, imaginez-vous, quelqu'un, en 20 ans, il ne sait pas s'il a fait une faute. C'est pas que nous, on sait que j'ai fait une faute, d'accord? Lui, il y a quoi, au bout de 20 ans, il dit, peut-être j'ai fait une faute sans que je me suis rendu compte. Sans me rendre compte. Donc c'est pour ça, la Gemara explique que ça c'est la raison de la crainte de Yaakov. Voilà pourquoi Yaakov a peur. Yaakov a peur parce que Yaakov se dit, c'est vrai que Dieu m'a promis, mais peut-être que la promesse n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai fauté. Mais cette réponse n'est pas suffisante. Il faut aller chercher plus loin. Pourquoi cette réponse n'est pas suffisante? Ah! Esberzé et nommé Sapek. Cette raison, cette explication que la Gemara a dit ne nous suffit pas à 100%. Pourquoi? Sheken Yaakov Yeda et Akla, puisque Yaakov connaît le principe qui est écrit dans une autre Gemara, qui est écrit dans la Gemara Yoma, qui dit comme ça. Kevan Cheyetsu Rov Shnotav Shel Adam Velo Chata. Puisque dès que la majorité des années d'un homme sont passées et qu'il n'a pas fauté, Shuv et Nochote, il a une présomption qu'il ne fautera plus. C'est une phrase que la Gemara dit dans le traité Yoma. Or, Veukvar Yada, Veukvar Yacherov Shnotav. Yaakov était déjà après la majorité de ses années. Et il le savait. Rachid nous le dit déjà, il le savait. Il avait un doute, il allait mourir dans les années comme sa mère ou comme son père. Rachid l'a dit plusieurs fois. Mais il savait. D'accord?
Je sais pas.
Hein? Vous êtes venu pour quel...
Pourquoi? Alors, le principe du Rov, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'une personne a passé la majorité de ses jours sans fauter...
Ça veut dire quoi, la majorité?
Ça veut dire la majorité.
51%.
Par exemple, aujourd'hui...
C'est pas 70 ans.
Par exemple, voilà. Par exemple, aujourd'hui, on dit qu'une personne, d'accord? En tout cas, à l'époque du Teili, on dit qu'une personne vit entre 70 et 80 ans.
D'accord.
80 ans, à peu près, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne est passée 41 ans, et qu'il n'a pas fauté,
il peut crever,
d'accord, il sait qu'il ne fautera pas. Ça, c'est écrit.
C'est une
présomption, mais ça veut dire qu'il n'a plus à craindre peut-être que j'ai fauté.
Mais il y a un Cohen Gadol qui a...
Très bien, une seconde. D'accord. Donc, Yaakov, écoutez bien ce qu'a dit la Gemara Yoma, Yaakov avait déjà passé la majorité de ses années. Donc, Vaïtalo, il faut Chazaka, Shelo Yecheta. C'est vrai que peut-être, s'il veut forcer, il peut fauter. Mais il avait une présomption de ne pas fauter. Donc la réponse que la Gemara dit que Yaakov a eu peur, il a dit peut-être que j'ai fauté, c'est une réponse très intéressante. Sauf que ici, elle ne nous suffit pas à 100%. Pourquoi elle ne nous suffit pas? Puisque Yaakov avait déjà passé la majorité de ses jours, et il n'a pas fauté. Donc le fait de se dire peut-être j'ai fauté, c'est pas bon. Normalement, on sait qu'il n'a pas fauté, il savait qu'il n'avait pas fauté. Le fait de se dire peut-être entre-temps j'ai fauté, a priori c'est pas suffisant. Alors regardez bien la réponse extraordinaire qu'on va voir ici. Qu'on va retrouver dans les mots de la Gemara.
Il avait quel âge, là?
Il avait... Quel âge il avait, Yaakov? Il avait... Non, plus que 80 ans.
Ah ouais.
80... Quel âge? 97 ans. Il était vieux, il était très vieux, déjà.
Ah, là, quand il sort 97. De Laval?
Quand il sort de Laval, on parle.
Mais il est moins. Hein? Il arrive à 62
ans. Non, là-bas. Il a déjà parlé à la Gemara, dit clairement. Moi, j'ai pas le décompte exact.
14.
Non, il a pas 60. La Gemara a dit que quand il est sorti de chez Laval, il avait déjà passé la majorité de ses années, il commençait déjà même à penser à sa mort. Parce qu'il s'est dit... D'accord.
Donc
il savait qu'il allait partir. Enfin, il avait déjà passé la majorité de ses jours, ça c'est sûr. La Gemara Yoma, elle parle de ça. Quoi qu'il en soit.
Oui, c'est marié à 60.
D'accord. Quoi qu'il en soit. La question qu'on se pose ici, on va pas perdre de vue la question, c'est de quoi Yaakov a peur. Dieu lui a promis, il lui a donné une assurance, il lui a dit, t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, je te garde. Je te garde. D'accord. C'est ses parents qui l'ont demandé de partir. T'inquiète pas, je te garde. Or, il a déjà passé la majorité de ses jours, et donc le fait de se dire peut-être que j'ai fauté, ça tient pas. Ça nous étonne de la part de Yaakov, parce que Yaakov, c'est certainement l'affirmation de la Gemara, qui dit qu'une fois qu'une personne a passé la majorité de ses jours sans fauter, il ne fautera pas. Écoutez bien la réponse qu'on va avoir. Atshuva lekart muna bedivrei Yaakov. La réponse à ça se trouve dans les paroles de Yaakov. On aura un enseignement extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit katanti mikol achasadim. Yaakov a dit, je me sens petit par rapport à tous les chassadim, toute la bonté que Kadosh Baruch Hu m'a donnée. Dans ces trois mots, on a la clé de la réponse pourquoi Yaakov a eu peur. Comment? Vous allez voir ce qu'il dit ici. Ilua Yachoshev alatmo. Si Yaakov pensait à sa propre personnalité. Vaya osek ve'arachat dargato aishit. Et Yaakov était occupé, si Yaakov avait pris le temps, de s'occuper, d'évaluer son propre niveau, son niveau personnel. Vadai ayayodea sheuzakai le kabel et trasde Hashem. C'est sûr que si Yaakov avait pris le temps d'analyser son niveau, c'est sûr qu'il serait arrivé à la conclusion qu'il mérite le chesed akadosh baruch hu. Pourquoi il serait arrivé à cette conclusion? Parce que tout d'abord il sait qu'il n'a pas fauté. Et le fait de se dire peut-être que j'ai fauté, il ne serait pas arrivé à cette conclusion puisqu'il sait qu'il a déjà passé la majorité de ses jours sans fauter. C'est quoi le problème ici? C'est que Yaakov avalhu lo chashav kayatmo. Yaakov ne pensait pas du tout à sa propre personne. Ou chash itbatlut mukhletet la kadosh baruch hu. Yaakov sentait une annulation complète, une annulation totale à kadosh baruch hu. Ve'argashat katnut gmura. Il se sentait petit face à kadosh baruch hu. Katanti. Et vous voyez comment dans un détail qui nous paraît anodin, quand Yaakov dit je suis petit devant tous les chassadim, bon, ça passe très rapidement dans la paracha. En vérité, dans ce détail-là se trouve la clé de la réponse. C'est quoi la clé de la réponse? C'est que si Yaakov dit qu'il se sent petit, c'est-à-dire qu'en vérité, Yaakov n'a jamais pris le temps d'analyser. Écoutez bien, c'est très très fort. Vous savez, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à analyser qu'est-ce que Dieu nous doit, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu. Yaakov n'a pas pris un instant pour analyser qu'est-ce qu'il vaut, ce qu'il vaut. Pour analyser son niveau personnel. Ve'alken chashash! Shema nitlach ler bechet. C'est pour ça que Yaakov a craint, peut-être qu'il a fauté. Qu'est-ce qu'on entend par faute ici? Écoutez bien encore un autre ridouche. Velo, velou, chet bemouvan shel choser shlemut. Chet en hébreu, ça veut dire une faute. Mais ça veut dire aussi un manquement. On voit par exemple dans les rois, d'accord, dans les rois, dans la section des rois de la Bible, on voit là-bas que là-bas le roi David il dit Ani uvni Shlomo chataim. Il dit moi et mon fils Shlomo chataim. Il emploie le terme chet. Et là-bas Rashi explique que ça veut dire quoi le terme chet. Chet ça veut dire manquement. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que Yaakov il arrive devant, il sait qu'il doit combattre Esav. Yaakov n'a jamais pris le temps de faire un bilan personnel, de dire voilà ce que j'ai fait pendant 97 ans, Chazak Julien. Il n'a jamais pris le temps d'analyser ce qu'il a fait pendant 97 ans. Il dit, je sais que j'ai pas fauté. Faire une faute, avéra, j'ai pas fait, ça je sais. Je connais Yaakov. Mais il se dit, peut-être que j'ai eu un manquement. Peut-être que Dieu attendait quelque chose de moi, pendant ces 20 dernières années, que je ne lui ai pas donné. Peut-être. Alors, en vérité, nous on connaît la réponse. C'est que Yaakov n'a rien manqué. Non seulement il n'a rien manqué, mais il a fait plus que ce qu'on lui a demandé. Les nuits, il ne dormait pas pour étudier la Torah, pour s'occuper de ses enfants. La preuve, c'est que tous ses enfants sont sortis cachers. Pourquoi Yaakov ne le sait pas, ça? Parce qu'il n'a jamais pris le temps pour y réfléchir. Et ça, c'est énorme. Pas seulement c'est énorme, c'est une spécialité que Yaakov Avinu avait par rapport aux autres patriarches. Le fait de ne même pas prendre le temps pour analyser sa propre situation.
C'est quoi? C'est son Cheshbon Nefesh ou c'est lui par rapport
son Cheshbon Nefesh. Il n'a jamais pris le temps. Ça veut dire que Yaakov, à tout moment, il te dit peut-être que j'ai pas fait assez. Bien que nous on sait qu'il a fait assez. Et que si Yaakov avait pris le temps de réfléchir et d'analyser, il dit oui, je suis clean, j'ai fait assez. Il aurait dit ça, c'est sûr qu'il aurait dit ça. Et c'est sûr que s'il avait pris le temps de réfléchir, il serait arrivé à la conclusion, je n'ai rien à craindre. La promesse de Dieu est toujours d'actualité. Pourquoi alors il n'est pas arrivé à cette conclusion? Parce qu'il n'a jamais pris le temps de réfléchir.
C'est pas le tanya.
C'est très fort. Il n'a jamais pris le temps de réfléchir. Il n'avait pas le temps pour ça. Il n'avait pas le temps pour réfléchir, est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait? Il faut foncer! Bekarit batei Yehudo chez Yaakov Avinu. Et dans ça s'exprime la spécificité de Yaakov. Kefish Neemar, comme le verset il dit dans Teilim, Mishpat ut zaka be Yaakov ata asita. Il dit là-bas la chose suivante, il dit, le jugement et la tzedaka, tu as fait chez Yaakov. C'est un verset dans Teilim 99. Pas 97. D'accord? Et regardez bien qu'est-ce qu'il veut dire ce verset. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, le jugement, et la tzedaka, tu as fait chez Yaakov. Dit comme ça. Rova anashim, mekablim et bakashotem me hachem kitzdaka. La majorité des gens, nous, d'accord, le commun des mortels, leur demande à Kadosh Baruch Hu comme une tzedaka. Sheken al pishuratadin en rayim mekablam. Parce que si vraiment on analyse, Dieu ne devrait pas nous donner ce qu'il nous donne. Atzadikim, yecholil midrosh et tzorkem et mishpat. Les tzadikim, eux, peuvent demander ce qu'ils veulent à Kadosh Baruch Hu en jugement. Ça veut dire, ils disent à Kadosh Baruch Hu, je ne demande pas une tzedaka. Tu me dois. Pourquoi ils peuvent faire ça? Kiem zakaim le kabusru de maasem. Parce que les tzadikim sont méritants. Qu'est-ce qu'il veut dire le verset? Le verset, il nous dit que nous, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, on demande une tzedaka. Parce qu'en vérité, on sait qu'on n'est pas méritant. Mais un tzadik, quand il demande à Kadosh Baruch Hu, il peut exiger parce que, il dit, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai rien manqué. Donc tu me dois. Quelle est la force de Yaakov? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit le verset? Mishpat ou tzedaka be Yaakov. Que Yaakov, il avait et le jugement, ça veut dire qu'il pouvait demander à Kadosh Baruch Hu en tant que justice, ça veut dire, écoute, tu me dois, mais en même temps, il demandait une tzedaka à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi il demande une tzedaka? Si Dieu lui doit, pourquoi il a besoin de demander une tzedaka? Elle a la réponse. Veilu et tzad Yaakov et Yamishpat ou tzedaka kechad. Chez Yaakov, il avait les deux en même temps. Ou aya racha, il y dboa et tzadatom mishpat. En vérité, il aurait pu demander à Dieu, il aurait pu exiger à Dieu. Et Dieu, écoute, tu m'as promis, il y a 20 ans, que tu allais être avec moi. Je m'apprête à faire la guerre chez Esav, avec Esav. Sa promesse est toujours d'actualité, puisque j'ai jamais rien manqué. Tu me dois, tu es obligé de me sauver. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit?
Ça s'appelle le tzedaka de...
Non, ça c'est mishpat, ça c'est un jugement. Jugement, ça veut dire c'est carré, c'est droit. Ah, ou bikejot ki tzedaka. Et pourtant, on voit que Yaakov a demandé ça comme une tzedaka. Il veut avoir un Kadosh Baruch Hu, il dit, je suis petit devant tous les chassidim que tu m'as fait, etc. Pourquoi Yaakov a fait ça? Parce que Yaakov aurait pu demander en mishpat, en mode mishpat, il aurait pu demander en mode jugement, pourquoi il demande en mode tzedaka? Comme on a dit, parce que Yaakov n'a jamais pris le temps de réfléchir à sa situation.
Donc il savait pas s'il avait un antivirus ou pas.
Il sait pas. Lui, il sait qu'il faut foncer, il faut avancer. Il n'a jamais pris le temps de réfléchir, il n'a jamais pris le temps de se dire, oui, ce que je fais, c'est bien. savez, pour arriver à la conclusion que ce qu'on fait c'est bien, il faut analyser. Il dit voilà, tu m'as demandé si, j'ai fait si, j'ai fait si, donc c'est bien. Yaakov n'a jamais pris le temps. Il dit tu m'as demandé si, je fais si. Je fais. Jamais il s'arrête pour dire est-ce que Akadosh Baruch Hu maintenant tu me dois quelque chose. Jamais il s'arrête pour ça.
Ça, la Anava.
C'est énorme. C'est plus que la Anava, ça.
La Anava, c'est
l'humilité. C'est de dire bon, je me sens petit par rapport à Akadosh Baruch Hu, je me sens humble, je me dis que si un autre avait mes qualités, peut-être qu'il aurait fait mieux que moi. Là, il prend même pas le temps d'analyser. Et là, Shlemutzo, Baal, Idebitu, Bishna, Pirushin, le Mela, Bemaké. Là, on va retourner à ce qu'on a expliqué au début du cours. On a posé une question, on a dit comment le même verset dit Bemakli, quand Yaakov dit qu'il a traversé le Jourdain avec son bâton. On dit, une explication, a dit qu'il a traversé le Jourdain avec son bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec son bâton. Ça veut dire qu'il avait que ça. Seconde explication qui dit, quand il dit qu'il a traversé le Jourdain avec son bâton, ça veut dire qu'il a traversé le Jourdain grâce à son bâton. Donc on a dit, a priori, ces deux explications qui sont un peu contradictoires. Parce que la première explication exprime une grande pauvreté, pauvreté extrême, il a que son bâton en main, alors que la seconde explication exprime une grande richesse spirituelle, une grandeur spirituelle. Alors c'est peut-être pas contradictoire, mais ça va pas du tout dans la même direction. Un exprime une pauvreté, l'autre exprime une grandeur. Avec ce qu'on a expliqué, avec le paramètre qu'on vient d'expliquer, que Yaakov Avinu ne prenait jamais le temps de réfléchir à sa propre situation. Il n'avait pas le temps pour ça, de faire le bilan, de dire voilà, Dieu tu m'as demandé si, j'ai fait si, tu me dois. Mishpat. Il aurait pu le faire. Parce que les tzadikim, ils ont le droit d'exiger à Kadosh Baruch Hu en Mishpat. Et c'est écrit que Dieu ne peut pas le refuser. Quand un tzadik demande à Kadosh Baruch Hu, tu dis, je peux pas te dire non. J'ai fait ce que je t'ai demandé, je te donne. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit le verset? Mishpat utzaka b'Yaakov ata asita. Que chez Yaakov, c'était en mode Mishpat, ça veut dire qu'il aurait pu utiliser le mode Mishpat, et pourtant il a utilisé le mode Zaka. Alors quel rapport avec le bâton? Dans les mots. Shlemutzo, donc je prends le paragraphe comment Shlemutzo. Shlemutzo, Baal, Idebito, Ibishna, Pirushin, Lemila, Bemakli. Cette plénitude qu'il y a chez Yaakov, comment en même temps il est méritant, il aurait pu demander à Kadosh Baruch Hu, il aurait pu exiger à Kadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, il prend même pas le temps de faire le calcul qu'il peut exiger à Kadosh Baruch Hu, et il demandera toujours en mode Tzedaka. Cette plénitude qu'il y a chez Yaakov, cette perfection, on va la retrouver dans le mot Bemakli. Mitzad echad, raït etzmo Yaakov, katan v'chatzar kol. D'un côté, Yaakov se sent petit, petit, insignifiant. Kepirou charichon, comme la première explication. Shimevate etonio chez Yaakov qui exprime la pauvreté de Yaakov. La première explication qui exprime la pauvreté de Yaakov, donc qui exprime a priori que Yaakov se sent petit, de quoi elle parle? Elle parle pas du vrai niveau de Yaakov. Le vrai niveau de Yaakov, il donne un coup de bâton le jour d'un sou, il donne un coup de bâton, il a la richesse qu'il veut. Elle parle de ce que Yaakov se prenait. Elle parle comment Yaakov se voyait. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Yaakov, il se voyait tout petit. Il se voyait comme quelqu'un qui a qu'un bâton en main, imaginez-vous. Quelqu'un, il fait un long voyage, il a qu'un bâton en main. Yaakov se voyait comme ça. Arfa Bécha, mais en même temps, en vérité, nous on sait la vérité. Amad Bedargal Yonabioter, en même temps, Yaakov était à un niveau extraordinaire. Ah, Tchayer Raoult, il est Neshel Piet Ayadin Kipurou Chicheni. À tel point qu'il avait une tellement grandeur, il était tellement grand, qu'avec un coup de bâton, il ouvrait le Jourdain. Donc voilà comment les deux explications marchent très bien ensemble. En même temps, Yaakov dit qu'il a traversé le Jourdain qu'avec son bâton, ce qui exprime une grande pauvreté. Ce qui veut dire que Yaakov, sa vie, il s'est toujours vu comme quelqu'un de pauvre, comme quelqu'un qui vaut rien, comme quelqu'un qui n'y mérite pas tout ce qu'on lui donne. Mais en même temps, nous on sait la vérité, que Yaakov, il donne un coup de bâton, ça s'ouvrait. D'accord? Ça veut dire quoi? Là, on a vu comment les deux explications du mot Bemakli, l'explication qui exprimait une pauvreté et l'explication qui exprimait une richesse, en vérité, les deux peuvent cohabiter sans problème. Puisque l'explication qui exprimait la pauvreté parle de comment Yaakov se voyait, et l'explication qui parle de Bemakli comme la grandeur de Yaakov, parle de quoi? Parle de la vérité, comment Yaakov était. Alors, nous, d'accord, quel enseignement on a tiré d'ici? Est-ce que vous avez bien compris l'idée que j'ai dit ici?
Comment il s'est ouvert ou pas?
Il s'est ouvert le fleuve. Ah. Mais Yaakov, il voit un miracle comme ça devant lui. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit, ah, mais c'est pas moi. Je mérite pas. Et c'est intéressant parce que vous voyez, dans le même mot, Bemakli, on te dit en même temps, on te dit que Yaakov se sentait petit. Donc il dit, oui, moi j'avais qu'un bâton quand je traversais, j'avais rien du tout. Et en même temps, on te dit qu'en vérité, il était énorme et qu'avec un coup de bâton, il ouvrait tout. Alors quel est l'enseignement? Afalpi, Chanour et Rokimon, Mandrika, Yaakov, Avinu. Bien que nous sommes très loin du niveau de Yaakov Avinu. Je ne cherche pas à dire qu'on... Mais, Yaakov Avinu est un de nos ancêtres. Donc ça veut dire que quelque part, à un certain niveau, ce qui s'est passé avec Avinu nous concerne. Comment ça nous concerne? Kol Yehudi, chaque juif, mitokef et yoto Yehudi, du fait qu'il est juif, ou ben melachim. Un juif, par définition, est un fils de roi. D'accord? C'est écrit dans la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat, page 67, elle dit qu'un juif, c'est un fils de roi. Et qu'il faut traiter un invité, elle parle des invités là-bas, il faut traiter un invité comme un fils de roi, parce qu'on est tous des fils de roi. Donc, un fils de roi, ve'uzakai lidrosh ma'ashem eskatrachav. Un fils de roi peut demander à Dieu ce qu'il veut. Le fils du roi, il demande ce qu'il veut au roi. Donc, mishpat. Des fils de roi, on peut demander ce qu'on veut à Kadosh Baruch Hu. Ve'afal piken, mais quand même, qu'est-ce qu'on nous dit? Mishpat uzaka. Alav levakesh et advarim. Je peux demander à Kadosh Baruch Hu, écoute, à Kadosh Baruch Hu, tu es le roi, je suis ton fils, j'ai besoin, tu me donnes, point à la ligne. Est-ce qu'on a déjà vu qu'un fils de roi était méritant pour recevoir? Le fils de roi, c'est le pourri gâté, c'est le fils à papa, c'est tout. Le fils du roi.
Donc on a le droit de lui faire un
c'est le prince. Mais pourtant, bien qu'on pourrait demander à Kadosh Baruch Hu, en tant que fils de roi, je finis avec ça, viens là, je finis. Alav levakesh et advarim, lomitor trusha shel magiali. Il ne faut pas demander à Kadosh Baruch Hu avec un sentiment de tu me dois. Et là, qui zaka va chesed. Il faut constamment se rappeler que peut-être que Dieu il nous doit, c'est possible. Lui, c'est lui de savoir. Mais nous, de la manière comme on se voit, il faut toujours se sentir petit et de dire que Dieu il nous doit rien et qu'on demande zaka Kadosh Baruch Hu. Allié des cartes zochim avec ça on mérite. Shegam Kadosh Baruch Hu itzelenu et sheva bichotav. Et si nous on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on demande pas à Kadosh Baruch Hu parce qu'il nous doit, on lui demande en tant que chesed, une bonté s'il te plaît, je t'en prie. C'est-à-dire, on montre à Kadosh Baruch Hu que j'aurais pu t'exiger, mais je ne t'exige pas, je te demande un chesed. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Lui aussi, il va nous donner l'eau à pied Megel, il va nous donner bien plus que ce qu'il nous doit. Et là, il est mal, ami, comme dit Avak Bala, de manière illimitée. En Bebané, que ce soit pour les enfants, En Bechaye, pour la vie, En Dizoné, pour la Parnassa, ou Bechoula, Bibrinat Reviché, tout ça de manière large, Bechava ou Bechefa, avec largesse, d'accord, avec abondance. Ah, Timit Baklim, Kol Advarim et Balbelim, jusqu'à ce que tous les sages qui veulent nous casser les pieds, ils s'en vont, d'accord, il n'y a pas de guerre, on gagne la guerre d'affilée, Vezochim, la Chevet, Veshalva, Gabol, Amazé, et on pourra vivre tranquillement, même dans ce monde-ci, avant même que ma chère soit là. C'est-à-dire que le concept du cours d'aujourd'hui, c'est Katon Timikola Chassadim, quand Yaakov dit je me sens petit devant tous les Chassadim de Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut dire Yaakov? Nous on sait la vérité que Yaakov est très grand. Nous on sait que Yaakov avec un coup de bâton, il ouvre tout. Quand Yaakov dit je me sens petit, il parle de son sentiment personnel. Qu'il se sent toujours petit. Tzedaka, il est constamment en train de demander à Kadosh Baruch Hu une tzedaka. Et l'enseignement que nous on a tiré, c'est que même si un juif est religieux et qu'il fait ce que Dieu lui demande, il fait Shabbat, il fait la Torah, il fait les mitzvot, et quelque part, hein, il peut exiger à Kadosh Baruch Hu, il dit écoute à Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit de fermer le Shabbat, j'ai fermé le Shabbat. Tu m'as dit de venir au Minyan, je suis venu au Minyan. Tu m'as dit, j'ai fait, ce que tu m'as demandé, j'ai fait. Je travaille pas les fêtes, je travaille pas. Alors on voit la Parnassa. Tu dois, c'est un devoir. J'ai fait ce que tu m'as demandé, tu dois faire maintenant ce que je te demande.
La santé.
Il peut demander. C'est un fils de roi, il peut demander. Mais qu'est-ce qu'on te dit? Mishpat ou tzaka, Yaakov, c'est ainsi ça. Que nous, il faut demander à Kadosh Baruch Hu comme une tzaka. Il faut se sous-estimer en d'autres termes. Ça veut dire, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, j'aurais pu te t'exiger, mais je t'exige pas, je te demande en tant que tzaka. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir l'effet contraire. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, enfin l'effet contraire, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, non seulement qu'il va nous donner, qui devrait nous donner si on l'avait exigé, mais il va nous donner encore plus que ça, encore plus que ce qu'il nous donnait.
Mais c'est pas automatique. Hein.
Ça va prendre quelques années, mais ça vient.
Non, c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il peut décider que non, parce que il y a des tikkunim, il y a des
choses. Ah, bon, ça c'est un d'autres paramètres.
Ah oui, voilà. Donc le travail des tirages.